Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Florian Gazan.
Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour On refait le match. Le On refait le match d'après cette élimination des Bleus face à la Suisse en huitième de finale. Car oui, depuis lundi dernier, la France, comme Didier, déchante. On va évidemment revenir sur ce fiasco de l'Euro. Les causes et les conséquences aussi pour l'équipe de France. Alors que dans un an et demi, il y a déjà la Coupe du Monde qui se profile avec un titre de champion du monde à défendre. L'Euro est fini pour les Bleus, mais il continue pour les équipes encore qualifiées, dont l'Italie et l'Espagne, déjà en demi-finale après les matchs hier soir. Depuis 18h, le troisième quart de finale, celui des outsiders entre le Danemark et la République tchèque, se déroule. Actuellement, c'est le début de la deuxième mi-temps. On va suivre le match en fil rouge avec Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste, on en est où ?
Salut Florian, bonsoir à tous. Effectivement, 2-0 pour le Danemark. Les buts de Thomas Delaney et de Kasper Dolberg, le niçois. On n'a pas encore repris la seconde période, mais cette première mi-temps danoise est enthousiasmante à l'image de l'entièreté de leur Euro. C'est une équipe formidable, il faut le dire.
Ah oui, peut-être en route pour refaire le coup de 1992. Les Danois, en tout cas, dès qu'il se passe quelque chose, vous intervenez, mon cher Baptiste. Et puis le quatrième et dernier quart de finale entre l'Angleterre et l'Ukraine, vous pourrez le suivre ce soir à 21h dans RTL Foot avec Eric Silvestro et son orchestre, où il y a moins de fausses notes que chez les Bleus. À mes côtés ce soir pour en refaire le match, une équipe prête à en découdre. Elle a le même accent que Omar Da Fonseca, mais elle, on comprend ce qu'elle dit. Cindy Colmenares de M6, bonsoir.
Alors bonsoir à tous, je suis vaccinée contre la Covid et contre les désillusions de l'équipe de France.
Très bien, et on embrasse Omar évidemment. Celui par qui la bombe Mbappé sur son avenir au PSG est arrivé cette semaine, on en reparlera évidemment, le chef de la rubrique foot de RTL, Philippe Sansfourche. Bonsoir Philippe.
Bonjour Florian, bonjour à toutes et à tous. Je vois que même la dépression de tout le foot français ne vous empêche pas de faire un peu le troubadour.
Non,
le fanfaron.
Le fanfaron, le trouvert. Voilà, bah écoutez, la vie continue, hein, c'est que du football. Il a un demi-sourire car son autre équipe de cœur, l'Italie, est toujours en piste. David Aiello de la chaîne L'Équipe. Bonsoir David.
Bonsoir Florian, c'est vrai que c'est en très grande forme. Là, je sens que l'émission part sur des bases très hautes.
Vous avez de la chance, vous, 7 euros, il a de l'intérêt pour vous encore.
Hein. C'est ça.
Bon. Et enfin, celui qui nous avait assuré à 100% que la France gagnerait l'Euro samedi dernier ici, on a les bandes. Et pourtant, on l'a eu dans le baba, et là, je ne parle pas de Cyril Hanouna. Gilles Verdez, bonsoir.
Bonsoir, je ne répondrai pas.
On va toujours le gagner, Gilles ou Pastor ?
On gagnera le prochain.
Ah d'accord.
Mais bon. On aurait dû le gagner.
Il n'avait pas précisé quelle édition. Il avait dit on va gagner l'Euro sans dire quelle année.
Quel mieux. On va en reparler. Et puis évidemment, salut à Damien Béchiot, le réalisateur de l'émission. Vous êtes bien sur RTL et nous aussi, on y est bien avec vous.
On refait le match.
Florian Gazan sur RTL.
La France ne ramènera donc pas une nouvelle fois la coupe à la maison. Lundi dernier, le camembert a coulé face à l'Emmental et son gros mental. La Suisse nous a éliminés en huitième de finale. C'est Helvet Underground pour Didier Deschamps, qui vient de vivre son plus gros échec en tant que sélectionneur. Peut-il s'en remettre et comment va-t-il remobiliser un groupe qui ne vit pas si bien que ça, alors que début septembre, déjà, tout le monde se retrouve pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Comment et pourquoi on en est arrivé là? Qui a été le maillon faible des Bleus? Y a-t-il quand même du positif à retirer de cette élimination? Qui est désormais le favori de l'Euro? Et puis le mercato évidemment, Mbappé qui refuse en l'état de prolonger au PSG. Pourquoi ça coince? La faute à quoi? La faute à qui? Mais pour commencer cette émission, cette question, messieurs, mesdames, cette élimination piteuse, honteuse de l'équipe de France à l'Euro, attention, hein, roulement de tambour, est-ce que ce serait pas un mini Naïsna? A tout de suite pour refaire le match sur RTL.
On refait le match sur RTL. Florian Gazan sur RTL.
On refait le match.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h avec Cindy Colmenares, David Aiello, Philippe Sansfourche et Gilles Verdez. Allez, on va se faire du mal, on va donc revenir sur cette sortie de l'Euro qui ressemble à une sortie de route. On promettait le paradis d'un troisième championnat d'Europe bleu. Ils ont connu l'enfer d'une élimination précoce face à la Suisse, avec des tensions entre les joueurs, entre les parents des joueurs même, avec un sélectionneur dont les consignes ne sont pas respectées sur le terrain. Alors, Bucarest 2021, est-ce que finalement, c'est pas un mini Naïsna? C'est un peu provoque, mais quelque part.
Vous êtes complètement provoque quand même là.
C'est complètement provoque. Souvenez-vous quand même de le retentissement mondial qu'avait eu Naïsna. C'était devenu une affaire politique. Ça avait duré des mois. Souvenez-vous que ça s'était étalé dans le temps. Thierry Henry qui va à l'Élysée, qui est reçu par le président Sarkozy. Enfin, ça avait pris une dimension. La ministre d'État qui s'était quand même déplacée sur place pour tirer les oreilles aux joueurs. Voilà. Enfin, pour moi, c'est incomparable. Parce qu'il n'y a pas cette dimension pour moi extra-sportive.
Bon. Oui, il y a un but. Il y a un but, Baptiste Durieux, me signale-t-on?
Absolument, excusez-moi, mon micro n'était pas ouvert. Pour la République tchèque.
Ouvrez-le.
Bah oui, c'est quand même mieux. Le but de Patrick Schick, il me semble, évidemment. Qui d'autre? Patrick Schick qui inscrit son cinquième but dans cet euro. Malgré effectivement des Danois qui sont toujours dominateurs, qui sont toujours en confiance, mais c'est une réduction du score qui est quelque peu logique puisque la République tchèque a réussi quand même à se montrer assez dangereuse sur cette première période. Ça fait donc 2-1 pour les Danois, toujours face à la République tchèque. On joue depuis 50 minutes précisément.
Et la rencontre est relancée. Vous intervenez quand il se passe quelque chose, mon cher Baptiste. Alors, on va revenir en tout cas à l'état d'esprit, la solidarité. On a un peu l'impression que les Bleus en fait ont perdu par là où ils avaient gagné en 2018. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Ça, par rapport à votre question sur Mini Naïsna, c'est un séisme. Ça reste un séisme footballistique. Moi, ça me rappelle davantage le France-Bulgarie et la catastrophe de 1993 avant la Coupe du Monde Costa 94. Dinov. Voilà. Mais néanmoins, on a beaucoup de mal à s'en remettre. Et je ne dis pas que le football français tremble sur ses bases, mais on est quand même en grosse difficulté. On a une Ligue 1 qui est calamiteuse. Il y avait l'étendard de l'équipe de France qui maintenant s'effondre, donc c'est un vrai problème et il va falloir une remise en question globale. On peut pas dire comme ça on efface et on repart pour la Coupe du Monde. On va se qualifier pour le Qatar, mais il faudra gagner au Qatar. Comment? Deschamps doit se remettre en question, il doit virer des gens du staff, il faut se poser la question sur les joueurs. Donc votre question, c'est un peu de la provocation, mais pas tant que ça, je trouve.
Ah bah merci Gilles, voilà, je distribue un bon point à Gilles. Voilà. Non mais franchement, on a l'impression que ce que je disais, que les Bleus en 2018 avaient gagné par rapport au fait qu'ils étaient injouables, cette solidarité, ce physique et tout, et on a l'impression que tout ça a disparu en 3 ans.
En fait, les Bleus aujourd'hui, enfin l'Italie aujourd'hui et les Bleus de 2018, ça veut dire que c'est une équipe qui est super collective, soudée, là où la France, on a tout vu. On a d'abord vu qu'effectivement il manque d'automatisme, on n'a pas cessé de les dire, mais on a après vu dans les matchs contre la Suisse, moi ce qui m'a beaucoup déçu, c'est de voir que les joueurs commençaient aussi un petit peu à chercher avec Deschamps, des choses qu'on n'avait absolument pas vues en 2018, les groupes vivaient très très bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les staffs médicaux, on en avait parlé lors de la dernière émission avec tous les blessés, et en plus, si on doit rajouter, parce que bon, il y en a déjà quand même assez, bah au fait c'est tout simplement une équipe qui a du mal à naître une avec une compo en première période, un 3-4-3, on l'avait aussi dit lors de la précédente émission, attention, c'est vraiment une tactique qui a besoin de prendre les temps pour pouvoir vraiment fonctionner. Donc en fait, il n'y avait pas les ingrédients.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, Philippe? Parce qu'en fait, le premier match après la victoire contre l'Allemagne, on était tous enthousiastes.
Ah,
la machine a gagné.
Vous vous souvenez maintenant?
Ouais, j'étais encore là. Ouais. La machine a gagné 2018 est de retour. On va être champion d'Europe. Et deux semaines plus tard, on sort par la petite porte. Alors à quel moment ça a brillé en fait?
Vous avez regardé le match de la Belgique hier, par exemple?
Ouais.
Vous
n'avez
pas l'impression qu'il y avait des similitudes avec l'équipe de France, c'est-à-dire des joueurs stars comme De Bruyne, complètement rincé. De Bruyne, vous regardez son visage, on a l'impression qu'il a pris 10 ans depuis 6 mois.
On dirait son père un peu. Oui.
Voilà. En fait, on a dans ces sélections stars des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens, qui vont très très loin en Ligue des Champions, qui sortent de 2 années qui se sont quasiment télescopées avec le Covid, et une multitude de blessés et de joueurs qui sont soit en retour de Covid, soit en instance de nouvelles blessures. Les grandes sélections sont rincées. C'est pas un hasard s'il n'y a pas au stade des demi-finales ni la France, ni l'Allemagne, ni le Portugal, enfin toutes les équipes qui avaient gagné ces derniers temps. Donc
il y a quand même l'Espagne, l'Italie,
donc,
et peut-être l'Angleterre.
On va pouvoir faire, parce qu'on doit le faire, l'inventaire de ce qui n'a pas fonctionné. Et il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a certainement une érosion, peut-être dans la vie de groupe, également dans la vie globale de l'équipe de France au sein de la fédération avec un encadrement. On a parlé du staff médical, mais aussi dans la logistique. Il y a probablement des choses qui ont un petit peu dérapé en l'espace de 2 ans. Donc il y a une remise en question, un petit tour de vis qui est nécessaire, mais ça ne doit pas être la grande lessive. On a quand même une équipe avec des joueurs exceptionnels. On l'a vu sur le premier match contre l'Allemagne, un niveau de jeu, une intensité, une capacité à jouer collectivement qui était là. Après, effectivement, Didier Deschamps ne s'est pas facilité la tâche en faisant revenir Karim Benzema. Et en termes de gestion du vestiaire et en termes de remise à niveau tactique de l'équipe, il s'est mis des bâtons dans les roues. Peut-être que lui aussi, il y a eu un excès de confiance. Donc voilà, on a pris une claque, on a pris une fessée. Maintenant, il faut repartir du bon pied.
Sauf que Philippe, en 2018, nos grands joueurs évoluaient déjà dans des grands clubs. Je veux dire,
mais c'est pas la même saison du tout quand même.
Non, mais c'est pas la même saison. Les saisons sont les mêmes pour tout le monde. C'est pas la même saison pour personne, mais c'est
pas les mêmes pour tout le monde.
Déjà, le Covid, tout le monde l'a eu. Joueur qui était en finale de Ligue des Champions.
Non, mais en 2018, je veux dire, on évoluait déjà dans les grands clubs. En 1998, nos joueurs évoluaient dans les grands clubs. Je trouve que l'excuse de la fatigue, tout le monde peut l'avoir. Et c'est vrai qu'il y a des sélections qui n'ont pas l'air d'être fatiguées. Alors, non, mais c'est peut-être...
Celles qui n'ont pas été loin dans les Coupes d'Europe et qui jouent dans des championnats moins harassants.
On verra l'Angleterre. Mais les joueurs anglais évoluent dans un championnat éreintant.
Déjà, ça lui donne déjà un petit peu plus de...
Ok, si vous voulez. Non, mais alors, je trouve que... On a un peu tendance cette semaine à trouver une succession d'excuses à ce qui s'est passé.
Ma crainte,
c'est qu'on dise finalement c'est pas si grave.
Non, mais c'est pas ce que dit Philippe, je trouve. C'est que moi, je suis sur sa ligne, je vais peut-être même encore plus loin. C'est que je rappelle que ce match-là, à 5 minutes près, on est peut-être là d'ailleurs en train de fêter la qualif. Mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand
on était loin,
on peut pas s'arrêter.
Avec des si, on remporte toutes les compétitions.
Je suis d'accord, mais quand on fait des si, quand on analyse, on regarde ce qui s'est passé clairement. Philippe l'a dit, il y a le match contre l'Allemagne, il y a eu des bonnes phases quand même. Ça, tout n'est pas acheté. Et encore une fois, on n'est pas sur une équipe de France qui est sortie en phase de poule et qui a été ridicule du début à la fin. Donc, qu'il y ait une analyse à faire et qu'il faille effectivement regarder au niveau du fonctionnement. Pareil, quand j'entends Cindy dire il y a eu des prises de bec avec Deschamps, il y a eu Coman qui s'est pris la tête avec Deschamps, c'est pas une rébellion de tout le monde.
Il y a aussi Pogba, qui n'a pas suivi les consignes.
Non, mais ça arrive dans un groupe.
On les voyait pas en 2018. Justement, les côtés merveilleux de la France, c'est que les groupes vivaient très bien.
Il se passe un petit truc, je suis d'accord qu'il y a des choses à analyser là-dessus. Mais pour moi, il faut pas partir sur une révolution de palais, tout jeter. Parce que là, encore une fois, à 5 minutes près, et j'insiste, si pour moi ça existe, ça, sur le contenu du match, sur la seconde période contre la Suisse,
c'est vrai, David.
On fait pas la même analyse.
Tu admettras quand même que c'est une équipe sur 4 matchs qui en gagne qu'un.
Ouais.
Et c'est une équipe qui a été menée sur les 3 derniers matchs.
Oui, mais bien sûr qu'il y a quelque chose à dire.
Mais pour moi, je ne veux pas non plus que ça parte. Il y avait quand même des carences.
Mais même sur ces carences-là, il y a quand même sur tous les matchs, il y a aucun match où ils sont passés complètement à travers. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a minimum une demi-heure qui est au moins intéressante, voire parfois une mi-temps entière.
Une demi-heure sur 90 minutes, c'est pas beaucoup quand même, David. Et ces tensions dont on parlait, qu'on a senti sur le terrain contre la Suisse, Pogba et Rabiot qui s'engueulent, Pogba qui pointe Pavard.
Pas tant que ça. Ça a été monté en épingle. Rabiot, c'est pas dit grand chose.
Il y a eu des trucs de terrain.
Ouais, mais est-ce que tout était aussi rose que ça chez les Bleus?
Non.
Est-ce que finalement, quand même, ce groupe dont on dit qu'il vit bien, est-ce qu'il
a pas manqué à... C'était idyllique.
Je sais pas, j'y étais prêt. Pourtant, je joue bien au foot, mais j'ai pas été
sélectionné. Les histoires, les bisbilles sortent quand les résultats ne suivent pas. En 2018, vous gagnez, donc on oublie tout. Mais pendant la compétition, il y a eu des clashs.
Mais pas entre les joueurs et l'entraîneur. Moi, j'ai eu vraiment les sentiments.
Il n'y a pas eu des clashs entre cadres.
Mais j'ai eu les sentiments qu'il y avait.
Vous croyez que c'était déjà tout rose entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé?
C'est entre les joueurs. Mais ce que tu as vu en 2018, Deschamps et les joueurs venir un peu.
Et parce que ça gagnait.
Non, je pense
pas. Je pense qu'il y avait
plus de respect et qu'il faut vraiment faire attention. Mais de toute façon, Deschamps, c'est très bien. Il est très respecté. Mais il faut vraiment faire attention à pas que ça devienne encore la fête comme on a vu par les passés. Parce que c'est justement ça qui a gagné la France surtout. C'est des joueurs qui respectent leur sélectionneur.
Oui, effectivement, il y a quelque chose à voir sur l'autorité de Deschamps.
On va en parler de Deschamps, évidemment.
Mais dans le foot moderne, soit vous surclassez tout le monde et donc vous imposez. Ça arrive de plus en plus rarement. Soit c'est l'aspect mental, donc l'esprit d'équipe, le collectif qui prime. Et quand il y avait des tensions avant chez les Bleus, soit on les réglait en interne, elles existaient, alors que là, elles transparaissent, je trouve, au grand jour. Et surtout, la notion de collectif prenait le pas sur l'accumulation des égos. Et moi, ce qui m'a frappé sur cette campagne, quand même, c'est que j'ai l'impression que les égos se sont démultipliés, ont grossi suffisamment, presque pour devenir des tumeurs, et que le collectif n'a pas réglé ça. J'ai quand même un tout petit peu l'impression d'une juxtaposition d'énormes joueurs, mais aussi d'énormes égos.
On va en parler. Et qu'est-ce qu'il a manqué? Est-ce qu'il n'aurait pas manqué un Adil Rami, par exemple? Un ambianceur? Un mec qui joue avec un extincteur? Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu ça?
Oui, un petit peu.
C'est un des éléments.
Il y avait Benjamin Mendy aussi, qui était un sacré guiluron. Et puis vous avez aussi le départ en cours de compétition d'Ousmane Dembélé qui était un
qui est pas le dernier non plus
parce que pour le coup les clans dont on parle ils concernent quand même essentiellement les joueurs offensifs. Et s'il y en a un qui fait l'unanimité et qui fait le lien justement entre les différents groupes et clans, c'est Ousmane Dembélé. Donc il y a aussi un manque de chance, c'est-à-dire que Dédé le chanceux,
le fameux animal de compagnie,
l'animal de compagnie.
Mais est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est les staffs? ou est-ce que c'est le staff qui n'a pas fait complètement ce qu'il fallait et qui a trop de joueurs blessés? Pour moi, c'est pas juste pas de chance que les joueurs soient blessés. Pour moi, c'est.
On va reparler.
C'est toujours difficile à dire.
On va en reparler. On va justement se pencher précisément sur Didier Deschamps. Dédé passé durant cet Euro. Où est-ce qu'il a pêché? Quelles sont ses grosses erreurs? On va en débattre dans un instant. On refait le match sur RTL.
RTL, on refait le. RTL, on refait le match.
Florian Gazan.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h avec Cindy Colmenares, David Aiello, Philippe Sanfourche et Gilles Verdez. Toujours 2-1 pour le Danemark face à la République tchèque. On est à l'heure de jeu. Dès qu'il se passe quelque chose, évidemment, Baptiste Durieux interviendra. On va ouvrir le dossier Didier Deschamps puisque c'est la règle dans le foot. Quand ça se passe mal, c'est toujours la faute de l'entraîneur. Déjà, est-ce que pour vous, est-ce que c'est lui le principal responsable de cet euro-fiasco?
Non, c'est les collectifs. C'est absolument pas Didier Deschamps. Pour moi, il a fait son job. Certes, parfois, il a pris des décisions qu'on a du mal à comprendre, mais c'est par la simple et bonne raison qu'il avait affaire à bricoler, quelque sorte, avec les absents.
Mais qui est garant du collectif, si ce n'est l'entraîneur et le sélectionneur?
Pour le coup, il y a quelque chose. Pour moi, il y a deux choses que je reprocherais sur cet euro à Didier Deschamps. Il y a la cohérence, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait ne pas être d'accord avec Didier Deschamps, mais il y avait une certaine cohérence générale, généralisée même de son discours, de ses décisions. On se disait, OK, on comprend. Là, pour moi, que ça soit par exemple le passage à trois derrière, enfin, tout un tas de choses qui étaient beaucoup moins lisibles. Effectivement, le retour très tardif de Karim Benzema, il y a plein de choses qui étaient plus vraiment marquées du sceau de la cohérence. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est effectivement la sensation que là où il tenait le groupe, là où effectivement, tu le disais Philippe, c'est ces histoires de guerre d'ego un petit peu qui pouvait miner le vestiaire, mais qui voilà qu'on arrivait à garder secrète, ou en tout cas où tout le monde s'effaçait un petit peu derrière au nom du collectif. J'ai l'impression que là-dessus, il est un petit peu perdu la main, qu'il a peut-être moins
un peu été débordé par sa gauche,
ouais,
à droite.
Alors ça peut être, je sais pas si il y a que lui qui connaît la réponse, si finalement il s'est épuisé un petit peu, parce que
pas le portable.
Je crois qu'il vous répondra effectivement, mais il y a toujours cette histoire de c'est épuisant, tous les sélectionneurs le disent. Finalement c'est pas la gestion de l'équipe, c'est pas les choix tactiques ça qui les fatigue, c'est la gestion, c'est le management quoi qui fatigue les sélectionneurs. Donc est-ce qu'il s'est épuisé là-dedans? Je sais pas, c'est lui qui a la réponse, mais en tout cas moi j'ai eu cette sensation là.
Si c'est le cas, c'est grave, ça veut dire qu'il est usé.
Mais voilà, c'est pour ça que
c'est
moi.
C'est pas un choix tactique, ça. Ouais. S'il n'a pas la capacité à voir, à sentir des problèmes de gestion.
Je dis pas que c'est le cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Après, toi qui étais sur place, il a peut-être.
Non, c'est qu'il n'a pas pu les anticiper, puisque, comme tu l'as dit toi-même il y a quelques instants, Benzema a été rappelé un peu tardivement, on va dire, entre guillemets. Donc, quand il a vu les soucis arriver, il ne pouvait pas les anticiper. Et moi, il y a quelque chose qui. Justement, ça a à voir avec Benzema. Mbappé a beaucoup de qualités, mais il a un petit défaut, et on l'a vu aussi au PSG, c'est que parfois, quand il y a des stars qui arrivent, on l'a vu avec Neymar, au détriment des Cavani, là on le voit avec Benzema, au détriment d'autres joueurs, il a tendance à faire ses choix. Et quand les joueurs commencent à faire des choix et à prendre un petit peu les pouvoirs, et je ne parle pas de lui précisément, mais de tous les joueurs de l'équipe de France, parce que ça les concerne tous, eh bien parfois, il peut arriver que les sélectionneurs se retrouvent un petit peu débordés.
Ça veut dire que Kylian Mbappé, c'est comme Bernard Morin, son défaut, c'est qu'il est égoïste?
Non, je ne trouve pas qu'il soit égoïste, mais parfois il essaye de prendre des décisions, il ne les prend pas.
C'est ce que Didier Deschamps aurait dû anticiper. À partir du moment où il avait. Moi, je ne sais pas, je vais vous dire que je l'avais senti ou quoi que ce soit, ce n'est pas le problème. Mais le jour de la liste, la première question que je pose à Didier Deschamps en conférence de presse, c'est est-ce qu'il a bien pris en considération le fait que le retour de Karim Benzema allait rompre les équilibres sur le terrain et dans le vestiaire, parce que on le sait ce qui va se passer, on le sait. Moi ça fait plusieurs jours que je fais toujours référence à la même image, mais elle me semble assez parlante. Ces vestiaires de champions de haut niveau sont des meutes de loups, et quand vous faites rentrer un nouveau loup dominant dans la meute au départ de la course, mais forcément qu'il y a des bisbilles, que chacun se retranche derrière son précaré, ses acquis. Et ce qui s'est produit, c'est exactement ça. Et ça a été parfaitement illustré par l'histoire des pénaltys. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Karim Benzema revient, Antoine Griezmann se sent obligé de dire dans la presse les pénaltys, c'est pour moi et c'est moi qui vais les reprendre. derrière Kylian Mbappé dans sa conférence de presse, mais moi j'ai pas entendu ça, on en a pas parlé. Et au final, qui est-ce qui le tire le penalty? C'est Karim Benzema qui pique le ballon à tout le monde. Et qui... Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'effectivement, tous ces équilibres de groupe ont été perturbés par le retour de Karim Benzema, qui est un joueur extraordinaire et immense, et qu'il fallait faire revenir. On
et
l'a
les
vu,
comportements ont été exemplaires.
Il fallait
alors.
Le faire bien en amont.
Mais donc, c'est danse avec les loups, mais Deschamps n'est pas Kevin Costner, c'est ce que tu es en train de me dire, Philippe.
Pourtant, il y a un truc physiquement.
Ouais, un petit peu. Oui, Gilles.
Moi, je suis pas d'accord du tout avec cette version de Philippe. Pour moi, quand vous rappelez Benzema, vous ne pouvez le rappeler qu'à la dernière minute. Et pourquoi vous rappelez Benzema? Pourquoi la dernière minute? Parce que si vous le rappelez avant, il y a trop de polémiques, trop de sujets. C'est presque une crise ouverte qui va s'étaler pendant 3 mois. Il faut un choc, c'est un électrochoc. Et pourquoi vous le rappelez? Parce qu'il s'est rendu compte que sans lui, on allait à la catastrophe. C'est ça le problème. Sans Benzema, je ne sais même pas si on aurait battu l'Allemagne. C'est-à-dire que sans Benzema, Deschamps a vu que cette équipe, elle était usée et il a fallu qu'il se rende à l'évidence. C'était Benzema le sauveur des Bleus. Donc mais il a été obligé de
le rappeler. Il ne pouvait pas s'en rendre compte avant, quoi, non?
Non, mais non, il le voulait. Non, mais avant, ce n'est pas possible,
Mbappé,
Benzema.
Coman, Dembélé. Non. C'est-à-dire que même sans Karim Benzema, ça reste la plus forte attaque de tout le plateau.
Pourquoi il l'a rappelé alors? Au risque de potentiellement bouleverser les équilibres, comme vous le dites.
Je ne comprends toujours pas pourquoi il l'a rappelé.
Parce que c'était le sauveur. Parce qu'il a vu que Benzema était le sauveur potentiel de la nation.
Au mois de novembre, quand il va au Portugal, il ne joue pas avec Olivier Giroud. Il met Anthony Martial. Ça veut dire qu'il sait déjà qu'Olivier Giroud ne sera pas titulaire à l'Euro.
Et en mars, il panique.
Parce que
Martial, Martial, c'est pas possible sans Benzema.
Est-ce que si Martial s'était pas blessé, Benzema serait revenu, tiens?
Peut-être pas.
Ça, avec des si, on aurait fait le monde. Hein.
Oui, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure. On peut faire un petit mot sur cette liste, justement, parce qu'on a quand même une liste de 23 qui avait été ramenée à 26. Ça pose aussi des questions. Pourquoi déjà prendre Léo Dubois et pas le faire jouer alors qu'il y a pénurie de latéraux? Pourquoi est-ce qu'on prend autant d'attaquants? Benzema, Mbappé, Griezmann, Coman, Dembélé, Giroud, Ben Yedder, Thuram pour au final, en fait, en faire jouer que 3. Quand même, cette liste, déjà, il y a aussi un problème là-dessus.
C'est ça ce que j'ai sur la cohérence. Je disais que pour moi, avant, il n'y avait pas vraiment de polémique, je sais pas, ou de débat, ou de points comme ça sur lesquels on pouvait attaquer Didier Deschamps. Il y avait maintenant toujours la question du style de jeu de l'équipe de France. Mais voilà, au niveau de la cohérence, on était dedans. Là, il y a plein de choses qui m'interpellent et je pense que je sais même pas en fait s'il y a des réponses, si ce n'est qu'effectivement cette sensation qu'il a perdu un petit peu la main. Effectivement, j'ai beaucoup entendu dire également qu'il était avant beaucoup plus proche des remplaçants, qui étaient justement dans ce management, aller leur parler, aller les gérer tout simplement, et que là ça a pas été le cas, et que forcément que sur l'ambiance généralisée du groupe, ça crée des tensions.
D'habitude, les tensions, elles sont entre titulaires et les remplaçants. Et là, il y avait tellement de tensions entre titulaires qu'il n'a pas pu s'occuper des remplaçants. Ouais. Et c'est ça le problème pour
et
moi.
Et encore
mon avis.
Moins des trois qui étaient en tribune. Oui.
Le problème, c'est qu'il a dû se muer en psychologue et que je pense qu'au bout d'un moment, ça a dû le saouler et qu'il s'est dit qu'effectivement, les liens se distendaient avec cette équipe. Mais ça s'est senti, même dans son management. C'est la première fois que je le vois aussi distant, presque absent. Même sur le banc, il était presque absent. À un moment, c'est vrai, il a perdu la main sur cette équipe. Et ça, c'est compliqué. Et moi, je pense aussi que notre erreur principale, qui est due à beaucoup à la pression médiatique et des supporters, c'est de dire que cette équipe, elle a gagné en jouant défensif et que le flot d'attaquants dont vous parliez, tous ces attaquants magnifiques, ça nous a fait jouer beaucoup trop offensivement par rapport à ce qu'on sait faire. Nous, on sait défendre. Et là, on a mis des attaquants.
Contre l'Allemagne, l'équipe de France, elle est version 2018. Ouais, elle n'a pas la possession. Elle pique en compte.
Elle marque même pas de but.
Ce match contre l'Allemagne, moi j'avais l'impression d'être télétransporté 2 ans en arrière et de me retrouver à Moscou et de voir la même équipe. C'était la même équipe. C'est pour ça que ça a généré autant d'attentes et que la déception est à la hauteur de cette attente générée sur le premier match.
Non, mais les Suisses, ça a été vraiment. Parce que vraiment, on n'arrête pas de dire la France. Les Suisses, vous avez vu les matchs qu'ils ont faits. Enfin, ils ont été aussi très, très forts.
C'est ça le sport, c'est qu'il y a des.
C'est
que tu peux le jouer 10 fois le match, tu vas certainement le gagner 9 fois, mais ce soir-là, les Suisses, ils étaient.
Et si on s'était arrêté à 3-1, vraiment, personne ici aurait ces discours-là qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que Deschamps, c'est un gagnant. Déjà, il ne partira pas parce qu'il partira jamais en 8e. D'ailleurs, Noël Legret n'a absolument pas l'intention, selon mes sources, de s'en séparer.
On va en parler ici. Vous spoilez. On va en parler évidemment de ça, de l'avenir des Bleus, Didier Deschamps, un petit instant. On va également revenir sur le retour de Karim Benzema en mode lastminute.com. On l'a dit, si le Madrilène a été un des Bleus les plus irréprochables, 4 buts, super attitude. On ne peut pas dire le contraire. Son comeback a-t-il fait plus de mal que de bien en bleu? On ouvrira le débat après la pub. Vous êtes bien sur RTL, alors restez-y et à tout de suite.
RTL,
on refait le match. On refait le match sur RTL
avec Florian Gazan.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h, toujours avec Cindy Colmenares, David Ayello, Philippe Sanfourche et Gilles Verdès. Et on va juste faire un petit coucou à Baptiste Duru qui suit pour nous au Danemark, République Tchèque. On en est où, Baptiste ?
Bonsoir à tous. Toujours 2-1, 70 minutes de jeu, 2-1 pour les Danois. Mais la République Tchèque est quand même assez virevoltante dans cette seconde période. On a vu à l'instant, côté devant, une certaine réaction avec Poulsen qui a raté son face-à-face. Mais c'est un match extrêmement équilibré, c'est un match extrêmement ouvert, donc le suspense sera présent jusqu'au bout. Les Danois qui mènent 2-1 face à la République Tchèque, 70 minutes de jeu.
Et c'est pas terminé avec cette République Tchèque qui est vraiment une équipe physiquement très au point sur cet Euro, et on a vu que ça comptait, notamment, mauvais exemple, avec les Bleus. On va ouvrir le dossier de Karim Benzema, la surprise du chef Deschamps pour cet Euro. Alors si ça avait mal commencé pour lui, que ce pénalty raté contre le Pays de Galles en match préparatoire, la suite, on peut le dire, était nettement meilleure pour le Madrilène. 4 buts, il a fait le boulot, meilleur marqueur des Bleus pendant cet Euro. Au passage, il a rejoint Zidane au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus avec 31 buts. Quel bilan vous tirez de ce retour en bleu de Karim Benzema ?
Excellent. Excellent, franchement, on l'attendait pas. Il est arrivé modeste, humble. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'Mbappé et Griezmann n'aient pas eu son humilité. Parce que les problèmes d'ego entre les deux, qui ne s'aiment pas du tout, qui se supportent pas, Benzema au milieu, hélas, il ne peut pas être le grand rassembleur, il ne peut pas être le guide suprême, parce qu'il n'a pas la légitimité.
Parce qu'il arrive trop tard.
Mais j'espère qu'il le deviendra. Lui seul peut calmer cette guerre des égos entre superstars.
C'est quand même plus facile d'être humble quand on vous donne tout le gâteau.
Il arrive. Excusez-moi, on lui a pas offert les buts.
Ah ben non, mais le poste de neuf, il est à toi, et puis on va organiser l'équipe en fonction de toi. Mais on va tout faire pour toi. Antoine Griezmann, qui est le joueur qui détermine le jeu de l'équipe de France depuis maintenant 6 ans, m'a dit Coco. C'est pas grave, ça fait.
Tu te mets sur le côté record,
ça fait plus de 50 matchs que t'es titulaire à chaque rencontre d'une sélection qui est championne du monde et vice-championne d'Europe en titre. Donc en fait, tu es le joueur, le maître du jeu. Mais non, on va tout effacer. Tu vas et puis alors qu'il y a,
on va te sortir en plus en cours de match.
C'est qu'on va tenter plusieurs choix tactiques, notamment un 4-2-3-1 où tu vas rester sur le côté gauche, mais lié à l'ancienne. C'est-à-dire que tu quittes pas le truc, tu reviens pas, tu repiques pas au centre, tu restes, tu bouffes la craie.
Ouais. Mais sérieusement, et Olivier, tu peux aller à l'église, parce que
c'était évident que ça allait
me reprocher à Deschamps d'avoir sanctuarisé Benzema en quelque sorte. C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Les dommages collatéraux sont peut-être plus importants que l'apport des 4 buts de Karim Benzema.
Je trouve ça incroyable. Non mais j'allais sauter sur ma chaise. Je trouve ça incroyable qu'on parle
mal,
on critique Griezmann. Griezmann est quand même le joueur qui fait que l'équipe de France se retrouve première du groupe.
Bon,
on critique les égos, on critique la guerre des égos, on critique les problèmes.
Griezmann, c'est
Mbappé.
Bien les joueurs, donc il faut s'en inspirer. Pourquoi ? Parce que justement, si on parle des égos, c'est vraiment les joueurs qui n'a pas l'ego, qui a fait des énormes efforts à la récupération, qui a vraiment fait tous les fausses.
Trop.
Oui, mais peut-être trop, effectivement.
Bah, il faudrait plus d'égos, comme au Barça.
Oui, alors après.
Pour s'émanciper de Lionel Messi.
Et oui, et pas apprécié. Bah, oui. Donc en fait, voilà, c'est ça les problèmes qu'on a aujourd'hui. Effectivement, si on demande à la terre entière, ils vont vous dire que Benzema a été un excellent joueur, et c'est la vérité. Il a été très bon, mais c'est un espoir d'équipe. Et pour moi, on aurait plus dû s'inspirer, pas de Mbappé, de Benzema, mais plutôt de Griezmann, un joueur qui était vraiment totalement orienté collectif.
En tout cas, à l'heure de faire le bilan, bien sûr, Gilles, que le bilan sportif, au sens stricto sensu du terme de Karim Benzema, il est excellent. Mais on est obligé, à l'heure de faire le bilan, de tenir compte effectivement de tout ce que, malgré lui, tout ce que ça a engendré comme conséquence. Et à l'évidence, une fois qu'on intègre cet élément-là, le bilan, il n'est plus le même.
Mais c'est-à-dire qu'en vous écoutant, j'ai l'impression que finalement, Deschamps n'aurait pas dû ramener Benzema en équipe de France.
Ça,
c'est un problème quand même.
Mais justement, je rebondis sur ce que vous disiez avant, sur le fait que c'était pas possible avant. Bien sûr que c'était possible avant. L'histoire des polémiques, ça aurait duré 2-3 semaines. Il aurait mis ses buts au mois de mars, et puis après, on serait passé à autre chose. Il aurait été dans le groupe, et puis voilà.
Federer, il est arrivé à Wimbledon, et puis la veille de démarrer le tournoi, il dit tiens, je vais changer mon revers, je vais le faire à demain sur ce tournoi. On va voir ce que ça donne.
Bah, il devrait peut-être.
Enfin, lui, il pourrait peut-être. Mais...
lui, il pourrait en plus. Mais non, mais. Pour même jouer de l'autre main, je pense qu'il est
Karim
en finale.
Benzema dans une équipe. Évidemment, c'est un tel joueur, il est tellement fort, et je souscris à tout sur les qualités qu'on vient de décrire, et sur son implication, sa façon de, à la fois de s'imposer dans le jeu, dans le groupe, et de venir avec humilité. Je trouve que dans l'attitude, on pouvait pas rêver mieux. Il a été absolument parfait.
Oui.
Absolument parfait. Mais, Le fait est que ça a trop perturbé les équilibres de groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors.
Les équilibres
et ça devait s'anticiper, ça.
Les équilibres de groupe, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, quand même, mine de rien, il y a certains joueurs qui ont vu arriver donc, ce grand joueur, ce commandeur revenir en équipe de France. Ça leur a un peu froissé les
goûts. Ça leur a froissé les goûts,
genre. Parce que Benzema était dans tous les visuels. On a l'impression que c'était, voilà, c'était le.
Les joueurs dont on parle là, ce sont des multinationales. C'est des holdings. Il y a 50 000 personnes autour d'eux. On parle de la famille, il y a les agents images, les agents financiers, les partenaires, ils sont en concurrence surtout, le moindre sponsor. Donc, c'est un équilibre à trouver qui est très compliqué. On le voit maintenant dans les clubs, quand on voit le Paris Saint-Germain, tout ce qui peut être mis en adéquation entre Neymar, Mbappé, avant il y avait Cavani, la moindre petite virgule faussée, et c'est tout l'équilibre qui peut s'effondrer. En sélection, c'est exactement la même chose. On peut le déplorer, mais en tout cas, c'est comme ça, et ça s'est amplifié. On en parlera peut-être, mais les fameuses histoires en tribune avec quelques...
Parlons-en maintenant, Madame Rabiot, la famille Pogba et Mbappé.
Il y a tellement d'enjeux, en fait, qu'au moment où la défaite arrive, chacun se retranche sur ses positions pour savoir, parce qu'on est déjà en train d'anticiper, qui va devoir porter le chapeau.
Qui va être le bouc émissaire.
Qui va être le bouc émissaire. Et donc là, c'est attaque contre attaque, pressing contre pressing, et c'est parti en tribune comme sur le terrain.
Pour moi, vous parlez parfois sur l'arrivée des Benzema, je pense que c'est ce qui revient le plus. Moi, je pense que si Deschamps a appelé Benzema, en tout cas, c'est la lecture que j'en fais, c'est parce que pour moi, à moyen terme, au moyen même long terme, Deschamps prépare déjà son départ. Il sait qu'il ira jusqu'à Qatar, il amènera en Coupe du Monde les Bleus, on l'espère, et qu'après, je pense que c'est un coach qui voulait être celui qui a amené Benzema, les ramener à nouveau en équipe de France, qui les rappelait, et pas les laisser faire par un autre coach.
Pour son biopic, pour
non,
le film.
Non, mais pas pour
mais
la biopic, mais
il a pas rappelé Benzema dans la perspective de la suite. Là, il a
pour
rappelé
moi,
là,
parce c'est, une
c'est
façon,
un tel compétiteur
pour
des champs.
Pour moi, c'est une façon de préparer son départ. Après, ce n'est que mon avis, mais voilà. Je pense qu'il y a un peu de ça.
Il est politique, mais pas forcément machiavélique.
Moi, je vais vous dire, pour moi, c'est tout bénef.
Quitte à rappeler Benzema, il fallait lui donner le brassard. Alors là, vous allez me dire, oh là là, les équilibres et tout ça. Bah oui, mais voilà, je vais vous dire.
Ça va, Igor Lloris, il est pas trop...
On a racheté le gasoil
Lloris,
et le diesel.
Désolé, mais Lloris n'a pas été un grand capitaine. Lloris n'a pas été un catalyseur. Moi, j'adorais Lloris comme capitaine. Là, je l'ai trouvé, lui aussi, absent. Pas leader, qui remplace les joueurs, qui dit aux joueurs soyez tranquilles, c'est Benzema. Je pense que quitte à rappeler Benzema, vous lui confiez le brassard, vous
c'est
en faisiez le leader emblématique.
Ça faisait beaucoup, là, les pénaux, le brassard, les coups francs.
Et on est éliminé par les Suisses.
Non,
c'est ça que vous vouliez ?
Peut-être, Gilles, mais
déjà.
Éliminé par les Italiens, comme la Belgique.
Vous êtes content d'avoir été éliminé par la Suisse parce qu'on a mené 3-1 et que c'était pas mal et tout ça.
C'est une calamité. Je suis pas content, moi j'avais acheté le maillot de Benzema, il faut le rendre maintenant.
On a aucune certitude qu'on lui donne. Il y a aussi autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y avait quand même à la moitié de l'équipe qui ne voulait pas du retour de Karim Benzema.
Mais ça, quand...
Et ça, Didier Deschamps le savait.
Mais ben pourquoi il l'a fait? Il
consulte
plus.
C'est la seule raison pour laquelle je rejoindrai Gilles sur les raisons du retour tardif. C'est que Didier Deschamps s'est dit, de toute façon, vu les retours que je vais avoir de mes cadres, puisqu'il y en a la moitié qui ne veulent pas qu'il soit là.
Et dans la moitié,
autant que je le gère sur la fin et pas pendant
le
trop longtemps.
Accompli, c'est ça.
Mais ça a été un coup de poker qui, au final, à mon sens,
Philippe,
a été perdu.
On ne va pas faire de délation. Vous dites que la moitié de l'équipe, c'était qui? C'était ceux qui étaient censés jouer plutôt dans son secteur de jeu. J'imagine que ça dérangeait moins Raphaël Varane, par exemple, que Kylian Mbappé.
Ah bah non, là, pour le coup, Raphaël Varane, c'était son principal soutien.
Voilà,
Mais Antoine Griezmann. Griezmann, il ne souhaitait pas le retour.
Oui, mais Antoine Griezmann, qui est donc le phare des Bleus, l'homme de base de Didier Deschamps, donc il ne l'écoute plus.
Il joue de la même manière.
Oui,
c'était évident qu'il allait subir.
Mais donc ça veut dire que Griezmann n'est plus écouté par Didier Deschamps. Alors ce n'est plus le bleu phare. Je ne comprends plus ce qui se passe.
Ah bah, de toute façon, Didier Deschamps vous l'a bien dit. Il en a parlé à aucun de ses joueurs. Et ça, ça a été vérifié. Moi, tous ceux auxquels j'ai posé la question, que ce soit devant les micros ou même en dehors, il était très clair que le soir à 20h devant la télé, il ne savait pas. Enfin, il le savait, il le sentait depuis le matin parce que ça commençait à bruisser.
Ouais.
Mais ils étaient comme nous, hein. Incrédule.
Dans le noir.
Ah oui.
Mais je crois que même la femme de Didier Deschamps n'était pas au courant. J'ai appelé.
C'est possible.
C'est un grand mystère.
Elle est au courant
non,
de
mais
tout.
Croyez pas si bien dire. Il va falloir se pencher aussi sur la question parce que à la fédération en ce moment c'est pas tout rose. Il y a une ambiance qui est quand même assez délétère.
Tout à fait.
Et moi je serais curieux de savoir à quel moment précisément Noël Le Graët a été averti de cette arrivée.
Ah, peut-être à 19h59 et 59
secondes. Non, oups, non, faut pas exagérer.
Non, j'exagère.
Sur les échos que j'avais eu, au moins le week-end précédent, j'ai eu cette info-là le lundi, que le week-end précédent, il était au courant.
Bon, ben heureusement.
Ouais, mais c'est tardif. Hein,
bien sûr, au moment de la première rencontre entre le joueur et le sélectionneur, est-ce que le président était déjà au courant? Je ne dis pas que j'ai cette information-là, mais j'ai des doutes.
Normalement, il est au courant s'il y a eu une note de frais, à moins que Didier Deschamps ait payé de sa poche. Dans un instant, on va se pencher sur l'après-Euro des Bleus. Didier Deschamps doit faire le point avec son président Noël Le Graët en début de semaine. Est-ce qu'il doit rester à la tête des Bleus? Est-ce qu'il faut tenter l'option Zidane, qui est libre? Comment remobiliser une équipe qui a paru un petit peu déchirée alors que les qualifs, c'est dès le 1er septembre pour la Coupe du Monde? On refait l'avenir des Bleus sur RTL dans un court instant.
On refait le match sur RTL.
On refait le match.
Florian Gazan sur RTL.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h, toujours avec Cindy Colmenares, David Aiello, Philippe Sanfourche, Gilles Verdez et Baptiste Durieux qui suit pour nous le troisième quart de finale entre la République tchèque et le Danemark. Baptiste, on est à la 80e minute, on en est où?
Avec cette action qu'on va suivre, action malheureusement pour le Danemark, pardon, excusez-moi, je vais m'en sortir, qui n'a pas abouti. On en est toujours à 2-1 pour les Danois qui mènent au score mais qui sont en danger dans ce match. Il reste 10 petites minutes de jeu pour l'instant.
Donc rien n'est encore fait, ça peut encore bouger, peut-être pourquoi pas encore une nouvelle fois des prolongations, on en a eu quand même beaucoup.
Ah bon, on est habitué maintenant.
Ouais, ça nous annonce ce que va être la Ligue des Champions, nouvelle formule.
Ouais.
Bon, on va maintenant se projeter sur l'avenir, celui d'Didier Deschamps déjà, qui après cet échec à l'Euro, doit rencontrer son président Noël Le Graët en début de semaine à Guingamp, hein, donc en avant Guingamp, mais en arrière Deschamps, je ne sais pas. Est-ce que le sélectionneur doit rester? Est-ce que déjà, il peut décider, lui, de partir?
Alors, pour moi, Noël Le Graët, déjà, ce n'est pas dans ses plans, selon mes informations. Cette idée ne lui vient pas à l'esprit. Et puis surtout, on connaît bien Deschamps. C'est vraiment un gagnant. Il a gagné deux fois la Coupe du Monde en tant que joueur, en tant que sélectionneur. C'est vraiment pas à sa personnalité, parce qu'on le connaît comme quelqu'un d'assez orgueilleux quand même, de venir partir en huitième et quitter l'équipe de France. Et puis, selon son entourage, c'est vraiment pas son style. Donc, vraiment, de tous les côtés, même du côté de la Fédé, etc., à aucun moment. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a quand même les indemnités. Je pense pas que l'FFF va vouloir... voilà.
Non, c'est
sauf
pas le moment.
Sauf si c'est lui qui décide de partir parce qu'il estime
il ne le fera pas.
Alors là...
Il ne le fera pas.
Non, on va voir. Non, ouais. Vous vous rendez compte s'il s'en va, ce que ça veut dire? C'est-à-dire que juste j'ai eu un échec et je m'en vais, je quitte les navires et je donne les clés du camion à Zinedine Zidane qui est derrière la porte et qui attend qu'une chose, c'est de rentrer. Mais jamais.
Il a pris un hôtel en face de la Fédé, il a pris un petit appart.
Il y a vu, hein,
dont les relations sont en plus pas forcément spécialement idylliques non plus, entre les deux.
Ouais, mais Noël Le Graët a un petit peu titillé, il a reparlé de Zidane, donc.
C'est logique, il est obligé. Il est obligé, même vis-à-vis de l'extérieur. Il est obligé. En interne, parce qu'effectivement la Fédé c'est compliqué, et vis-à-vis de l'extérieur, il est obligé aussi de tonner. Il peut pas laisser passer ça. Les présidents, quand ils ont été faibles, ils ont été virés après. Il peut être victime aussi lui d'une crise. S'il dit pas ça, il doit dire les résultats n'ont pas été bons. Je vais voir Deschamps. Mais au fond de lui, il va voir Deschamps pour parler et pour expliquer avec Deschamps que il y a encore au moins un an et demi à faire ensemble.
Mais Gilles, vous savez qu'en politique, quand ça se passe pas bien, quand il y a une élection ratée, bon là c'est un euro raté, généralement le président fait un remaniement et change de Premier ministre.
Alors, justement, en tonnant, il s'est couvert.
Parfois également, Florian, on ne change pas le Premier ministre, on change juste quelques membres du gouvernement, on garde le Premier ministre. Donc là, on pourrait changer les membres du staff, par exemple.
Alors qui, par exemple? Ça, c'est intéressant. La préparation physique, notamment, par exemple, qu'on peut remettre en cause?
Oui, ça sera certainement ce qui va se produire. De toute façon, vous avez la directrice générale Florence Ardouin, qui fait l'objet aussi de beaucoup de critiques en interne.
Ah oui, ça
et
va pas bien.
Qui doit se justifier de certaines choses, et notamment du fait que Noël Le Graët a beaucoup délégué à cette femme et que elle est très proche de Didier Deschamps, de l'équipe de France. Ça lui a même un peu souvent reproché qu'elle est un petit peu centrée essentiellement sur cela et qu'elle est très dispendieuse, que l'équipe de France, tout est permis en équipe de France. Sauf que là, bon, il y a eu effectivement effectivement des petits ratés qui ne peuvent pas expliquer à eux seuls la défaite et l'élimination. Mais c'est vrai que dans la préparation, il y a eu cette histoire d'hôtel là, à Budapest, où les Bleus devaient aller au bord d'un lac, s'aérer, prendre l'air. Et puis ça s'est pas fait parce que le terrain d'entraînement était pas aux normes, qu'il y avait un champignon. Enfin bon, voilà. Ce sont des petites choses.
À quoi ça tient, Euro, hein.
C'est des petites choses qui viennent un petit peu s'accumuler. Et quand ça gagne, eh ben, on n'en parle pas. Et puis quand ça perd,
on
sort la loupe et on regarde les choses à la loupe. Donc il y aura effectivement des décisions et il y aura probablement quelques membres du staff qui vont changer. La préparation physique, le médical est pointé du doigt aujourd'hui, ça peut changer.
C'est pas un peu un pansement sur une jambe de bois, ça, quand même?
Mais il faut bien que des têtes tombent quand même.
Non, mais après,
encore une fois.
C'est pas la Révolution française, Gilles.
Attendez, le séisme, il est violent. Vous devez virer des gens. Vous pouvez pas repartir avec les mêmes. On l'a dit tous que la préparation, par exemple, l'avant, quand ils étaient à Clairefontaine, ils ont été rincés par les séances. Il faut des sanctions. Les blessures, on en a plein. Pardon ?
Même pendant la compétition.
Les blessures, ils guérissent pas. On a trop de blessés. On sait pas ce que c'est. On n'a pas à voir à moitié KO qui continue. Il faut des sanctions. Il faut quand même sanctionner. L'hôtel, c'est très important, Florian, l'hôtel pour l'équipe de France. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez pas vos familles, que vous êtes cloîtrés, qu'en plus il y a des tensions, vous pouvez pas vous aérer. Oui. Et vous pouvez pas vous vider la tête.
Il faut quand même aussi rappeler qu'il y a les hôtels, parce qu'il y a une partie des hôtels qui sont pas du ressort de la FFF. C'est l'UEFA qui attribue les hôtels, donc c'est comme ça.
Mais jusque-là, normalement, quand on gagne, c'est qu'on a été assez bon pour faire du lobbying, avoir les hôtels qu'on veut. Là, on s'est fait court-circuiter. Il faut des sanctions. Donc il y a plein de niveaux pour lesquels il faut que des tombe.
J'espère au moins qu'il y avait un bon wifi quand même.
Selon mes informations, il y aura du recadrage. C'est le mot qui a été précisément employé. Mais dès là, Noël Legret ne fera jamais à Didier Deschamps
Vous ne recadrez pas Deschamps. Hein. Alors là, pour le coup, je connais Deschamps, vous ne le recadrez pas.
Pour moi, il y aura d'autres choses qui seront faites, notamment au niveau du staff.
Oui.
Parce que pendant la compétition, moi, ma crainte, c'était que quand on était à 3-1 contre la Suisse, je me suis dit, mais quand on va aller plus loin, on joue des prolongues, on va être hyper rancé, et puis ça va être hyper compliqué contre certaines équipes qui, eux, n'ont pas fait des prolongations, qui, eux, tous les joueurs y sont. Nous, on était dans un état quand même catastrophique. Donc voilà, il y a tout ça aussi à remettre en considération.
On a des éliminatoires pour la Coupe du Monde qui redémarrent le 1er septembre. C'est demain, hein, Donc qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce que Didier Deschamps reprend les choses en main ? Parce qu'il y a quand même une petite fracture, on l'a dit, avec une partie du groupe. On a quand même un résultat assez... Voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire, Didier Deschamps, pour repartir du bon pied ?
Déjà, je pense qu'il y a... Parce que finalement, on a peu parlé là dans toutes les raisons, tous les sujets qu'on vient d'évoquer, on a peu parlé de lui directement, de ce qu'on évoquait au contraire.
Mais vous voulez pas.
Oui, bah justement, j'y viens. En tout cas, sur son état d'usure, sur son énergie, sur sa motivation, sur le ressort qu'il est capable de trouver. Je sais pas, mais à minima, là, il va y avoir, j'imagine évidemment, une sorte de débrief collectif. Là, il va se faire au moment du premier rassemblement. Ils vont devoir se dire les choses parce qu'ils vont pas pouvoir repartir comme ça avec autant de non-dits.
Le premier rassemblement, c'est déjà des matchs de qualification.
Il va falloir qu'il y ait des choses qui sortent.
Peut-être qu'il fasse un petit camp d'été, non ?
Parce que il va pas.
Un système de qualification.
Benzema, il va revenir.
Vous matchs et vous irez.
Philippe, c'est très bien que si ils perdent le premier match de reprise après l'Euro, c'est la foule.
En l'occurrence, Benzema sera toujours là. Donc, on a dit que c'était à la fois la solution et le problème. Donc, il va falloir qu'il y ait des choses qui sortent et ce qui se disent par rapport à tout ça. Que Didier Deschamps, je pense également sur toute la partie management qu'on a évoquée, on avait la sensation qu'il avait un petit peu lâché, qu'il reprenne la main. Il y a peut-être des recadrages à faire pour retrouver le Didier Deschamps qui tenait son groupe qu'on avait jusqu'à présent.
Mais on le retrouvera, j'ai aucun doute là-dessus.
J'ai un doute là-dessus.
Regardez 2016, on était quand même battus. C'était la finale contre le Portugal. Mais vous croyez que ça n'a pas laissé des traces ? Et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Les groupes, allez, hop, ça répartit et voilà où on était en 2018.
Moi
j'y crois qu'en tout cas, on ne peut pas faire pire que des huitièmes quand même. Enfin, je touche du bois, mais je parle en tant qu'équipe de France. On ne peut pas faire pire que là. Je pense que
C'est vrai que c'est dur pour le Dubois. On le salue d'ailleurs. En tout cas, il a assisté à un très bel Euro des tribunes.
Non mais ce qui va se passer, c'est écrit. C'est une reprise en main très forte de Deschamps. Voilà. On est tous d'accord pour dire qu'il a un peu laissé traîner. Il a un peu vécu ça, je trouve, de manière détachée ou un peu extérieure. Là, ça va être une reprise en main terrible. Tous les joueurs, s'il y a des joueurs qui ont fauté, c'est-à-dire qui ne se sont pas impliqués à fond, ils vont être dégagés. Ça va être les hommes de Deschamps qui vont jouer.
Mais Gilles, laisse pas traîner tes filles si tu veux pas qu'ils glissent, disait NTM. Attention. Dans un instant, on va aborder le sujet. Kylian Mbappé, Philippe s'enfourche, l'a révélé en exclusivité sur RTL. Le natif de Bondy a prévenu le PSG qui ne prolongerait pas en l'état. Mais alors, en l'état de quoi ? On va en reparler, ce sera sans doute le feuilleton de l'été, vu que ça a déjà été le feuilleton du printemps,
Mexique,
de l'hiver, de l'automne. A tout de suite sur RTL pour en faire le match.
On refait le match sur RTL.
RTL, on refait le match.
Florian Gazan.
On refait le match jusqu'à 20h sur RTL, toujours avec Cindy Colmenares, David Aiello, Philippe Sanfourche et Gilles Verdez. Et on va évoquer un feuilleton encore plus palpitant qu'une série Netflix. C'est un peu la casa d'Mbappé. Kylian Mbappé, à qui il reste un an de contrat au PSG, va-t-il prolonger? Oui, non. Alors Philippe, pour l'instant, donc, hein, c'est non, c'est ça. Comment ça s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine?
C'est très simple. Kylian Mbappé avait dit que, évidemment, pendant l'Euro, il était hors de question de parler de cela, mais que quand l'Euro serait terminé, il reviendrait vers les dirigeants du Paris Saint-Germain qui, après plusieurs longues semaines de négociations, avait donc formulé une proposition de prolongation, à la fois en termes de durée et de montant. Kylian Mbappé a opposé une fin de non-recevoir.
Ouais.
Vous vous souvenez qu'il a essentiellement parlé de projet sportif. C'est la première chose. Il veut effectivement que le projet soit rassuré, lisible, et que tous les manques qu'il pouvait y avoir dans l'effectif soient comblés.
Ouais, bah attendez, justement,
on s'aperçoit que... Allez-y.
Bah non, mais je vous coupe parce que justement, vous parlez de ça. Il nous a dit, il nous tient avec, je veux des garanties sportives. Bon, ok, bah, les garanties sportives, là, quand même, le PSG est en train de monter un mercato de folie. On a déjà Donnarumma, le gardien de la sélection italienne. Wijnaldum, le milieu capitaine des Pays-Bas. On annonce Hakimi, un des meilleurs latéraux droits du monde. Sergio Ramos, titre, un des joueurs les plus titrés de la planète, va arriver. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Il veut Messi, Cristiano et Lewandowski comme remplaçant. Là,
non,
franchement,
mais là,
ça tient plus.
Il pourrait difficilement, effectivement, avancer l'argument du sportif. Donc il restera l'argument du financier, qui n'était pas l'argument numéro un, mais qui est extrêmement important.
Numéro un ex aequo, quoi.
Il ne vous aura pas échappé quand même qu'il y a son alter ego en termes d'affichage star du club, qui est Neymar. Et ça se passe pareil dans tous les clubs. Si vous êtes le numéro un, si on vous dit que vous êtes le centre du projet... Eh ben, il faut que sur la feuille de paie,
grosse motivation.
Voilà, c'est très bien formulé.
Le projet financier, quoi.
Ben oui, c'est le tout. Si vous lui donnez un centime de plus que le salaire de Neymar...
Mais pour moi, il y a autre chose, un autre élément qui rentre en compte. Est-ce que vous vous souvenez du cas Neymar? Pour moi, ces cas-là, la façon dont les clubs ont géré les cas Neymar, et d'ailleurs les cas Cavani aussi, mais on n'a pas beaucoup entendu parler. Mais du coup, ça, pour moi, ça a laissé des traces.
Tu parles de la prolongation ou tu parles de quoi? De quel...
L'époque des Neymar, Sequeda, non Sequeda, tu te souviens?
D'accord. Ah oui, je pars, je reste. Oui.
Voilà. Donc en fait, pour moi, ces cas-là, ça fait que dans l'esprit de certains joueurs actuels et puis potentiels, ils font un petit peu attention sur quoi ils s'engagent. Moi, je pense que Mbappé tient beaucoup aussi à sa liberté. Je ne pense pas que ce soit une question forcément d'argent ou des projets sportifs. Je pense que intelligemment, il se méfie peut-être un peu aussi.
Ouais, Gilles.
Il y a deux choses à mon avis. D'abord, Mbappé, il a envie de partir. C'est-à-dire qu'il sent très bien que c'est pas au PSG qu'on va être Ballon d'Or, c'est pas au PSG qu'on va gagner la Ligue des Champions.
Pourquoi?
Vous me citiez plein de joueurs, mais vos joueurs, c'est une aimable plaisanterie si Mbappé s'en va. Mbappé, il sait très bien que c'est très beau d'être entouré, mais si lui s'en va aujourd'hui, tous ces joueurs que vous me citez, s'il part, c'est un appauvrissement majeur du PSG, donc il est en position de force pour négocier. Et comme il a envie de partir, et sans doute au Real, il dit, si vous voulez que je reste, eh bien faites-moi une proposition que je ne saurais refuser. Mais sinon, il partira. Et pour moi, de toute façon, vu les atermoiements, je suis persuadé que ça a impacté sur son euro. C'est une erreur fondamentale que ça n'ait pas été réglé avant. Pour moi, peut-être qu'il va rester, mais dans sa tête, il est déjà parti.
Mais Al-Khelaifi ne le laissera pas partir, en tout cas, comme ça, libre. Parce que c'est ça, c'est là où il a du pouvoir, Mbappé.
Ouais, oui,
parce qu'il sait très bien que sinon, il pourrait partir libre. Et Al-Khelaifi ne le sera non plus jamais ça. Donc en fait, c'est assez...
Est-ce que ça sera que Nasser Al-Khelaifi, il n'a pas les cartes en main?
Il a le chèque en main.
C'est sa seule carte. Alors certes, c'est une belle carte, c'est un bel as. Mais la fameuse déclaration, il ne partira pas libre et on ne le laissera pas partir... Bah, à un moment, c'est quand même Kylian qui a le meilleur jeu.
Tu te souviens des Neymar ou pas?
Oui.
D'accord, juste ça.
Bah, il est resté Neymar.
Oui. Ben voilà.
D'accord.
Mais oui. Mais en fait, il voulait partir à un moment.
Neymar, il en a rien à faire du PSG. Neymar, il est au PSG parce que c'est là où ça paye le mieux. Neymar, si ça payait mieux autant à Barcelone, il serait reparti. Arrêtez de penser que Neymar a l'esprit PSG ou l'esprit club.
Quand on parle concrètement aussi, si on revient du concret, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de clubs qui sont pas en mesure.
Je vous coupe, c'est fini. République tchèque, Danemark. Baptiste Durieux, alors qui est le troisième qualifié en demi-finale de cet Euro 2021.
Et c'est le Danemark, Florian. Victoire 2-1. Ils ont subi, mais ils ont tenu jusqu'au bout. Ils sont héroïques, ils sont fantastiques, ils sont magnifiques. C'est Danemark, victoire donc 2-1 face à la République tchèque. Et le Danemark qui se retrouve donc en demi-finale pour la première fois depuis 1992, et oui, l'année du titre évidemment pour les Danois.
La fameuse Danish Dynamite, est-ce qu'ils vont refaire le coup? On verra ça. Merci Baptiste. Donc but de but, hein, Dolberg, et puis un but de Thomas Delaney, 24e but de cet Euro marqué de la tête. C'est un record sur un Euro, ça dit quelque chose, ça peut jouer peut-être sur les prochains tours. On revient vite fait sur Kylian Mbappé. Est-ce que une des clés, c'est pas finalement Mauricio Pochettino, dont Mbappé semble dire qu'il coach, qu'il adore, qu'il fait bien progresser?
En partie. Il se trouve aussi que Mauricio Pochettino est en conflit larvé avec Leonardo, et que comme c'est pas non plus Mbappé, le grand amour entre Kylian Mbappé et Leonardo, Mauricio Pochettino est le principal allié de Kylian Mbappé dans ce petit jeu d'échecs.
Et du président Nasser Al-Khelaïfi.
Il faut qu'il fasse attention quand même, Leonardo, parce qu'il a plus beaucoup d'amis au sein du club. Il y a quand même une bonne partie du vestiaire qui est contre lui.
Neymar aussi.
Oui, non, mais ça Neymar, Kylian Navas.
Zlatan à l'époque, d'ailleurs, il y a un problème quand même.
C'est pour ça que Leonardo aussi joue son avenir sur ce mercato, et qu'il est très actif, et que pour l'instant, on voit tous les noms que vous avez cités.
Pour l'instant, c'est bien. Hein,
ça achète beaucoup, mais ça ne vend toujours pas. Bon, moi je dis ça, je dis rien. C'est pas moi qui tiens les finances. Merci en tout cas d'avoir suivi ce On refait le match. Merci à vous quatre. On se retrouve samedi prochain à 19h pour la dernière émission de la saison. Dans un instant, RTL Foot avec le dernier quart de finale. Angleterre-Ukraine. Bonne soirée à tous sur RTL. Merci d'avoir été avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine.
RTL, on refait le match.